RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
J'ai les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Laura Barton-Martinez qui est sophrologue, Flora Gebali, entrepreneur dans la transition écologique, et nous sommes avec Charles Consigny, l'avocat. C'est la deuxième heure des GG. Tout à l'heure à 11h20, on évoquera ce que veut faire Bruno Retailleau. Il est candidat à la présidentielle de 2027. Il veut lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'hiver démographique en France. Il veut bousculer l'ordre naturel des choses. Il veut proposer d'investir dans l'avenir de la France, mais avec de l'argent. Et aujourd'hui, je veux un revenu familial. 240 euros par mois dès le premier enfant. Et ça frôlerait, on serait aux alentours des 1000 euros dès le troisième. Alors, est-ce que les enfants, c'est une question d'argent? Est-ce que c'est motivant? Vous venez en parler tout à l'heure à 11h20 avec nous. En attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Notre invité, c'est Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Bonjour Jérôme Guedj.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on fait des profits totaux alors?
D'abord, la préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'ensemble des Français qui voient les prix flamber sur les totems devant les stations service. Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit au gouvernement, on peut pas rester inerte face à une explosion des prix. Enfin, rendez-vous compte, on est 2,30€, 2,40€ pour du gasoil, pour du sans-plomb. Et depuis le début de la crise, fin février, début mars, on nous dit oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et hier, vous parlez des profits de Total, ils tombent.
5,8 milliards,
50% d'augmentation. Alors que dans le même temps, 40% d'augmentation des prix à la pompe. Donc il peut y avoir un lien, non pas de cause à effet, mais c'est quand même assez évident. Donc on ne peut pas rester inerte.
On taxe?
C'est le seul outil disponible. Moi, ce n'est pas mon outil préféré.
Vous avez vu ce qu'a répondu Total au Premier ministre. Il a dit, nous, la manière de redistribuer les richesses, c'est on cape les prix à la pompe.
Non, mais 99 c'est pour et ça. Et pourquoi je vous explique? Alors, c'est l'outil pour provoquer le débat qu'on met sur la table. C'est la proposition de loi qu'on a déposée. Et vous avez entendu mon ami Philippe Brun, député de l'Eure, qui a été à la manœuvre pour la rédaction de ce texte. Parce que c'est le seul aiguillon qu'on peut avoir pour provoquer quelque chose. Moi, j'ai d'autres outils. Est-ce qu'on joue sur le niveau des taxes? Il y avait eu la taxe flottante du temps de Jospin. Est-ce qu'on joue sur les marges des entreprises pétrolières? Est-ce qu'on peut les plafonner? C'est ce qu'avait fait en 1990 Michel Rocard, quand il avait déjà eu la première guerre en Irak, entre l'Irak et le Koweït. Là, l'idée, c'est de dégager des ressources pour les finances publiques, mais pas pour les mettre dans la poche de l'État, mais pour augmenter le soutien qu'on va faire à ceux qui en ont le plus besoin. Parce que pour l'instant, c'est des mesures trop spécifiques qui sont mises sur la table. Les gros rouleurs, les entreprises, la pêche, des agriculteurs, des professions un peu spécifiques comme les aides-soignantes, les infirmières libérales, mais ça touche pas la grande majorité des Français. Donc, à travers cette proposition, moi je vais vous dire, l'idée c'est d'en appeler au patriotisme économique d'une grande boîte comme Total. Moi je suis fier d'une boîte comme Total. On peut avoir des accords ou des désaccords, mais c'est une grande boîte française.
On l'entend pas beaucoup ça, à gauche, dire ouais, qu'on est fier de Total.
Mais non, mais
c'est assez dissonant.
Moi, il y a des moments, il faut dire les choses comme elles sont. On peut pas dire, on veut avoir des grandes entreprises françaises de l'influence, et quand il y en a une qui existe, dire vous êtes des profiteurs de guerre. S'ils le sont, il faut leur dire, on en appelle à votre patriotisme économique. Et le patriotisme économique, ils ont commencé à le faire, ils plafonnent. Je crois qu'il plafonne à 1,99€
et 2,09€ le diesel.
Bon, mais le problème que j'ai, donc déjà, peut-être ils peuvent aller plus loin dans le plafonnement et donc rogner sur leur marge importante qu'ils font aujourd'hui et de se dire pendant une période transitoire, nous on accepte, plutôt que de se faire pomper par une fiscalité spécifique, d'immédiatement le donner en pouvoir d'achat préservé pour les uns et les autres. Mais après, il faut pas qu'on se focalise que sur Total, parce que Total c'est pas la totalité de la distribution d'essence dans le pays. Il y a les grands distributeurs, la grande distribution.
Mais c'est marginal les autres, chez eux, l'essence. C'est un produit d'appel et ils font à peine 0,3 de marge.
Là aussi, en appeler à tous sur une forme de patriotisme économique dans la période. Le patriotisme, c'est ce qui va nous permettre de faire nation. Voilà. D'accord. Donc un patriotisme fiscal, un patriotisme au regard de l'amour de ce pays. Voilà, moi, c'est un beau mot, patriotisme. Ça me va bien.
Donc, vous demandez à toutes ces entreprises qui se portent bien de renier un peu sur leur marge,
oui,
et de baisser, et de baisser,
bah oui,
et de
dans baisser la période. Prix, mais parce que sinon, on va leur dire, l'effort va être imposé par la puissance publique et on va vous demander de la fiscalité. Et en plus, faut être tout à fait honnête, même si le texte qu'on a préparé, il vole, il tient la route, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Parce que qu'est-ce qu'on taxe? Est-ce qu'on taxe les bénéfices qui sont faits en France ou est-ce qu'on taxe les bénéfices mondiaux?
Il y en a pas beaucoup en France.
Comment on constate l'augmentation par rapport aux années précédentes? Nous, on a mis un mécanisme qui normalement tient la route puisqu'il s'inspire de ce qui avait été fait au moment de la crise en Ukraine, où il y avait déjà eu une forme de taxation des super profits, mais il y avait des trous dans la raquette, ce qui fait que le rendement avait été beaucoup plus faible. Je crois que c'était moins de 100 millions d'euros la taxe sur les super profits qui avait été faite au moment du début de la guerre en Ukraine, alors qu'on espérait presque 10 fois plus. Donc, franchement, soit on infantilise, je dis ça devant Charles Consigny, soit on infantilise et on dit il y a des taxes qui viennent vous taper sur les doigts et vous corriger, soit à un moment il y a des gens qui disent bah écoutez, ok, nous on participe à l'effort
privé pour prendre ses responsabilités.
Et dans le même temps, il y a le comportement que les uns et les autres peuvent avoir. Peut-être qu'il faut un peu moins prendre sa bagnole quand on peut s'en passer.
J'ai dit à peu près la même chose sur le patriotisme, etc. Je pense que Total fait le boulot pour l'instant et que en fait. Les uns et les autres essaient.
Oui, il va aller plus loin, Jérôme Gadi. Oui, il appelle les entreprises privées être responsables et baisser leurs prix, quoi, baisser leurs marges.
Oui, mais l'État fait la preuve franchement, de patriotisme de son côté. Je crains que Total ne serait pas Total s'il raisonnait comme ça en permanence, si vous voulez. C'est des boîtes qui deviennent des mastodontes internationaux parce que ce sont des entreprises très dures et qui pensent avant tout à faire à rentabiliser leur activité. Total, c'est pas Naturalia, quoi. C'est pas un écosystème solidaire du canal Saint-Martin. C'est une énorme entreprise extrêmement brutale, implantée partout dans le monde, très agressive, avec des gens qui bossent comme des dingues dedans. Le dernier PDG en est mort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une entreprise que Raphaël Glucksmann pourrait présider. Vous voyez? C'est pas exactement l'ambiance.
Et juste moi, donc,
il y a plein de choses que Raphaël Glucksmann pourrait présider.
Philosophiquement, je suis pas contre l'idée, mais je pense qu'ils
font déjà le
boulot dans la limite.
Non, mais, d'accord, mais ça c'est le laisser faire
psychologique.
Ça c'est le laisser faire, laisser aller du marché. Donc moi, je veux bien te dire, mais à la fin,
ça leur a pas trop mal.
Non, mais encore une fois, je suis pas en train de vous proposer la nationalisation de Total. Vous avez mesuré que je peux mettre de la nuance.
Par ailleurs, dans votre raisonnement, il manque les 60% de taxes sur l'essence.
Mais si, je l'ai mentionné. J'ai dit qu'il y a d'autres leviers qui peuvent être activés. Est-ce qu'on baisse les taxes temporairement, on réintroduit une sorte de taxe flottante comme l'avait mis en place Lionel Jospin à l'époque.
Alors pourquoi on ne ferait pas ça?
Non mais
peut-être que Total serait plus heureux.
Il y a plusieurs leviers qui peuvent être mobilisés. Ouais.
Enfin, moi je me mets à la place des actionnaires de Total. Ouais. Moi je fais un effort comme vous le dites parce que je suis complètement aligné avec ce que vous venez de dire. Ce que vous avez dit en avant-propos sur le patriotisme des entreprises. Mais pardon, moi demain je suis à la tête d'une grosse entreprise comme ça qui a un réel impact sur le quotidien des Français. Pourquoi moi je vais perdre de l'argent quand l'État ne bouge pas le petit doigt et me remet tout sur ma tronche? À un moment donné, c'est
mais
pas
ça veut dire quoi que l'État bouge le petit doigt? Alors je suis d'accord
en baissant les taxes.
Vous savez quoi, je pense que si l'État baisse les taxes, ce sera déjà un peu plus audible de redemander encore un effort.
On va faire la plus belle chose là sur ce plateau qui devrait se faire à l'échelle du pays. On va faire un compromis. Le deal pour moi en effet est là. Le deal c'est l'État dit je baisse les taxes. Même temporairement, soit les droits d'assises, soit la TVA, avec l'effet qui est que ça bénéficie à tout le monde, mais c'est plus simple à mettre en œuvre. Le gros rouleur avec son SUV qui gagne beaucoup d'argent, il va en bénéficier, mais
c'est tout de suite.
En même temps. Le smicard qui a besoin de sa bagnole pour aller au boulot à 4h du matin, lui, il se posera pas la question, ça le verra. Et que dans le même temps, il y a le patriotisme économique et les grandes entreprises. Si on est capable dans ce pays de faire ça, alors on se portera mieux. C'est-à-dire l'État et la puissance privée, à un moment, qui se disent, on mobilise nos outils au service d'un intérêt commun, qui est le soutien au pouvoir d'achat, qui est la grosse priorité, et à travers ce soutien au pouvoir d'achat, c'est aussi le soutien à l'économie du pays.
Donc, ça doit être
gagnant-gagnant.
Juste, je voudrais ajouter, c'est marrant que vous nous proposiez un compromis, parce que Jordan Bardella, il a été interrogé sur la même question que vous, et il a répondu, je sais pas, peut-être, il faut demander aux socialistes.
Non, mais
je
le problème de Jordan Bardella et du RN, c'est qu'ils savent pas où ils habitent, parce que dans la même journée hier, j'ai entendu Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen, et Jordan Bardella dire des choses totalement différentes.
C'est pour ça, je vais juste aller au bout de ma question. Vous, vous êtes député, donc vous les voyez à l'Assemblée, vous les côtoyez dans l'hémicycle, et il se trouve qu'il y a beaucoup de nos auditeurs et des automobilistes qui votent pour eux. Comment vous expliquez qu'ils votent pour eux alors qu'ils savent pas où ils habitent et qu'ils disent tout et son contraire sur la question essentielle de l'essence et du prix à la pompe?
Mais parce que, pardon de le dire, mais nous on le voit depuis des mois à l'Assemblée nationale.
Une question difficile.
Qui navigue à vue.
Jérôme Gaël, ouais.
C'est Jordan Bardella qui la pose, c'est pas moi.
Non mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont.
Pourquoi au moins sur l'ancien sont des branques
c'est... Non mais c'est Jordan Bardella qui dit qu'il faut demander aux socialistes. Moi je demande aux socialistes. Je porte la parole de Jordan Bardella.
C'est un peu branquignol, pardonnez-moi l'expression. Le fait d'être incapable, mais c'est pas que sur ce dossier. J'ai sur plein de dossiers sur la question du pouvoir d'achat, c'est les mêmes. Quand ils disent il faut soutenir le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, il faut un revenu digne. Quand on propose l'augmentation du SMIC, ils sont pas au rendez-vous. Donc il y a une espèce de grand écart permanent. On le voit de plus en plus entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Jordan Bardella qui va déjeuner avec le patronat et qui veut avoir son soutien sa connivence. Et Marine Le Pen qui a encore l'intuition de se dire mais moi je peux pas me couper de ces classes populaires qui croient naïvement que le RN est la bonne solution à toute leur crise. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est assez intéressant, c'est que ça pète à la figure. Un, l'amateurisme, l'incohérence des propositions qui sont faites et désormais les dissensions à l'intérieur du Rassemblement National entre ceux qui veulent gagner une ligne populaire et ceux qui se disent si on veut gagner le pouvoir, il faut qu'on ait le soutien du fameux établissement qu'on dénonçait auparavant.
Sur la proposition du SMIC à 1600 euros, moi, par exemple, j'aurais dit non aussi, dans l'état du texte, j'aurais dit enfin. Dans l'état de votre proposition, j'aurais dit non aussi, parce qu'en fait, on ne baisse pas les charges sur les entreprises. Moi, si on baisse les charges d'une entreprise, vous allez voir que le SMIC
mais
net
madame,
va augmenter.
Il n'y a plus de charges au niveau du SMIC. Hein. Il n'y en a plus.
Ah bon,
en France.
Le patron, il n'a pas de charges quand il paye au SMIC.
Au niveau du SMIC, un patron, il paye 73 euros de cotisation. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment, on est arrivé à quelque chose qui est mis en place et qui a marché et sur lequel je veux pas revenir. Ouais, ça a commencé en 1993. Ça s'appelait les allègements Fillon. Au niveau du SMIC,
elle a pas de charge patronale, elle a pas 27% d'imposition.
Au niveau du SMIC, un salarié au SMIC, je vous assure, il n'y a plus de cotisation patronale au niveau du SMIC, quasiment plus.
Aujourd'hui, je voudrais qu'on
revienne simplement sur la situation du jour.
Je parle des cotisations salariales sur le coût du travail, il y en a plus.
On a aujourd'hui, on a plusieurs chiffres qui se télescopent. C'est-à-dire, on a le prix à la pompe qui va sûrement continuer d'augmenter, oui. Même si Total, pour le moment, le cap, mais ils ne disent pas jusqu'à quand. On a l'inflation, 2,2%.
Et oui.
On a les prix de l'énergie, plus 14% à cause notamment de ce qui se passe dans le Golfe. Et à les mutuelles qui augmentent aussi
de
106 euros en moyenne. Les prix aujourd'hui, on voit bien qu'ils bougent quand on fait nos courses, etc. Donc comment on va faire pour ça? Comment est-ce qu'on va contrer cette hausse généralisée qui aura des répercussions, bien évidemment, sur la vie de tous les jours, sur les entreprises qui ne pourront pas répercuter. Avec zéro de croissance sur les chiffres d'affaires, etc. On va vers un hiver économique en plein été, quoi. Donc,
ça s'appelle un risque de récession. Et là où vous avez raison, c'est qu'il ne peut pas y avoir un discours de l'impuissance. Là, on dit, écoutez, il y a une guerre, on en subit les conséquences. On nous a dit, moi j'étais la semaine dernière à Bercy, grande messe avec tous les ministres, comité d'alerte des finances publiques. La guerre coûte 6 milliards d'euros au budget, aux finances publiques françaises, essentiellement par renchérissement du coût de la dette, enfin des taux d'intérêt, et donc il faut trouver 6 milliards pour équilibrer, donc 4 milliards d'économies du côté du budget de l'État, 2 milliards du côté du budget de la sécurité sociale. Mais il y a un peu une forme de discours de l'impuissance, un peu de spectateur. Moi je pense qu'il faut prendre ces sujets un par un et de regarder à chaque fois comment on peut agir. On vient de peut-être construire le compromis sur ce plateau, sur ce que ça pourrait être s'agissant du prix des carburants. Et vous avez mentionné un sujet, et merci de l'évoquer, parce que moi, c'est mon cheval de bataille depuis des années. Tout le monde s'en fout, mais on a en France un système où on a la sécurité sociale qui rembourse 70% d'une consultation médicale, vos dépenses à l'hôpital ou vos dépenses de médicaments. Et à côté, on a des organismes complémentaires d'assurance maladie, des mutuelles, pour un peu plus de la moitié, et des assureurs privés aussi, hein, des gros assureurs privés, AXA, Generali, les banques, etc. Or, qu'est-ce qu'on voit ces dernières années? Et ça, moi, dans ma permanence à Massy, tout le monde me parle de ça. 25% d'augmentation des tarifs des mutuelles ces trois dernières années. Voilà. Et est-ce que c'est une fatalité? Pourquoi on continue comme ça? Pourquoi on a ce système? Moi, j'ai mis un grand coup dans la fourmilière. J'ai fait voter à l'Assemblée nationale en décembre dernier un amendement qui a été voté par tous les parlementaires. La loi a été promulguée qui dit en 2026, il doit y avoir un gel des cotisations des organismes complémentaires maladie. Et là, on a d'abord un scandale démocratique, c'est que les organismes concernés n'appliquent pas cette loi, et c'est l'enquête que vient de faire l'UFC Que Choisir, et qui montre que 92% des gens ont vu leur cotisation augmenter alors que la loi prévoit le contraire. Et au-delà, donc déjà, ça c'est un problème démocratique, quand le Parlement vote que la loi est promulguée, qu'elle n'est pas censurée par le Conseil constitutionnel, normalement ça doit s'appliquer. On a le gouvernement qui dit, oh là là, je sais pas comment l'appliquer, je saisis le Conseil d'État pour avoir un avis. Et derrière ce cas particulier, il y a le sujet plus global. Pourquoi on continue à avoir ce système à double tête, mais si j'ose dire?
Vous voulez interdire les mutuelles ou pas?
Moi, je veux.
Vous voulez interdire les mutuelles?
C'est pas interdire les mutuelles. Je veux la sécurité sociale intégrale. C'est-à-dire un seul financeur pour couvrir la totalité du risque.
D'ailleurs, ça marche bien, la sécurité sociale.
Eh ben, oui, ça marche bien, la sécurité sociale. Mais notre système.
Mais ça coûte pas cher.
Et ça coûte pas cher en gestion.
Mais monsieur. Mais elle est même bénéficiaire, la sécurité.
Non, mais lui, c'est un grand défenseur du privé. Voyez, et je vais. Laissez-moi deux minutes un chiffre.
Oui, mais les hebdos, il y a un truc qu'on appelle les marronniers. Et parmi les marronniers, vous savez, ces sujets qui font la une des hebdomadaires toutes les trois semaines. Bah, il y a le trou de la sécu, par exemple. Et ça fait à peu près 40 ans qu'on nous parle du trou de la sécu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sécu intégrale qui sera encore plus déficitaire.
Eh ben non, vous me laissez deux minutes pour faire une démonstration au libéral que vous êtes. Pour gérer la sécurité sociale, pour vous verser vos remboursements avec la carte vitale, ça coûte 2 à 3 % de frais de gestion. C'est-à-dire 7 milliards par an sur les 250 milliards qui sont remboursés. Pour vous verser vos prestations à votre mutuelle ou votre assureur privé, ça coûte entre 14 et 20% de frais de gestion. Pourquoi? Parce que c'est concurrentiel. Ils doivent faire de la publicité, ils doivent faire du sponsoring, ils doivent avoir des courtiers, etc. Et ça, ça coûte 8 milliards d'euros. Donc moi, je vous fais une proposition d'économie en intégrant à la sécurité sociale cette gestion. C'est la sécu qui vous rembourserait totalement. Vous auriez plus l'hésitation qui est, quelle mutuelle je choisis? C'est quoi le bon tarif? Vous auriez plus l'inégalité qui fait que quand vous êtes salarié et que vous passez à retraité, vous avez une explosion des coûts de vos complémentaires. Vous aurez un système simple. Et vous savez quoi? Ça marche. Vous savez où ça marche? Ça marche depuis 80 ans dans un bout de France qui s'appelle l'Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, la sécurité sociale rembourse quasiment à 100% parce que c'est héritier du système qui avait été mis en place par l'Allemagne quand le territoire avait été occupé. Donc on a en France un système en Alsace-Moselle qui est géré par les salariés, qui est excédentaire. Écoutez, monsieur Consigny, en Alsace-Moselle, l'assurance maladie fait 500 millions. Oui, mais parce que c'est un dossier qui n'est pas assez sur la table. Et moi, comme candidat à l'élection présidentielle, je veux que ce soit une mesure concrète, qui soit mise au débat, qui soit reprise par les autres candidats, qu'on ait cette discussion. Je suis pas contre les mutuelles, elles sont utiles sur les actions de prévention, sur toute une série de choses.
Mais pour le remboursement de
l'assurance maladie, c'est redondant qu'elles se mettent sur des sujets qui sont pas occupés par la sécurité sociale. On pourrait parler de la perte d'autonomie pour les personnes âgées ou de la prévoyance, accident, décès, invalidité pour les salariés. Ça, c'est pas bien couvert par la sécu. Et donc peut-être que cela, on peut leur confier cette mission-là. Mais pour la sécu, faisons une sécurité sociale intégrale
qui est l'objectif initial
des gaullistes et des communistes en 1945.
Ça me fait penser au socialisme intégral, vous savez, qui était la grande expression soviétique. Mais moi, je suis très sceptique.
Mais je vois, vous connaissez pas le dossier, je vous assure. Et comme plein de gens, mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, il est pas assez connu.
Ce que je connais en revanche, c'est les charges que je paye pour éponger le trou de la sécu. Et je crains quand même que, avec un système où on élargit le spectre de ce qui est remboursé par la sécurité sociale, on se retrouve avec un déficit encore plus important qu'il faudra continuer à éponger. Les mutuelles,
Les mutuelles, elles ne sont pas en déficit. On se retrouve dans un instant avec Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Il est face au GG. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules, avec aujourd'hui face au GG Jérôme Guedj, le député socialiste de l'Essonne, avec Charles Consigny, Florent Gavalli, Laurent Barton, Martin. Vous avez dit candidat à l'élection présidentielle, hein, Jérôme Guedj, vous l'avez à nous.
Et je l'illustre. Pourquoi je suis candidat? Parce que je pense qu'il y a une gauche républicaine dans ce pays, mais il y a aussi une gauche sociale qui doit mettre des sujets sur la table. Et l'histoire des mutuelles, c'est pas une obsession.
Oui, j'ai bien
l'histoire
compris.
Des complémentaires, ça touche à la vie de tous les Français, enfin 93% ont une complémentaire, et ils voient bien que le système fonctionne pas de manière satisfaisante. Donc parlons des sujets de préoccupation de nos concitoyens.
François Hollande qui se prépare, Bernard Cazeneuve qui y réfléchit, Manuel Valls qui dit pourquoi pas, ils se moquent du monde les trois là ou pas?
Écoutez, chacun est libre, c'est pas moi qui vais dire le contraire.
La question, c'est voilà. est-ce qu'ils ont raison d'y réfléchir ou est-ce que ça, ils se moquent des Français, ils se moquent du monde?
Ça n'a de sens que si c'est au service d'un projet collectif. Moi, quand j'ai déposé ma candidature, annoncé ma candidature, c'est de dire ça sera dans un cadre avec tous les autres, parce que on va pas multiplier des candidatures qui vont pas au bout. Non, mais vous voyez bien que aujourd'hui, comme il n'y a pas d'évidence, il y a aucune évidence. Eh bien, chacun dit je suis disponible. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à condition de dire, je peux pas avoir raison.
Vous êtes
seul.
Sûr que c'est une bonne nouvelle? Vous êtes sûr que les Français prennent ça comme une bonne nouvelle pour la démocratie?
Non, mais
François Hollande, Bernard Cazeneuve.
Oui, mais alors c'est quoi la situation inverse de dire le PS est dans un tel état qu'il n'y a pas quelqu'un qui est préparé depuis des années et dont on sait de manière évidente qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Raphaël Glucksmann est dans le paysage. Il a fait des bons scores aux dernières élections européennes. Pour l'instant, il n'annonce pas de candidature. Il s'y prépare lui aussi. Moi, je veux être autour de la table avec tout cela en disant à chacun, les gars, on va arrêter l'immaturité. On va juste se poser la question, qu'est-ce qu'on propose concrètement qui fait, un, qu'on évite que Jordan Bardella devienne président de la République.
Ou que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République.
Et pour cela, la plus grande chance de succès de Jordan Bardella, c'est s'il se retrouve au deuxième tour face à Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas ma question.
Et donc, pour empêcher Bardella, il faut contenir Mélenchon et avoir une ligne qui est celle d'une gauche authentiquement attachée aux questions sociales, mais qui est républicaine, qui est clean sur la conception de la démocratie, du débat démocratique, parce que c'est dramatique, mais Mélenchon et la France insoumise sont devenus le plus grand repoussoir de la vie politique aujourd'hui.
Donc ce serait pas une bonne chose pour la France que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République?
Non mais
ma question elle est directe.
Non mais je veux dire, il ne peut pas être président de la République. S'il est au deuxième tour de l'élection présidentielle, les sondages valent ce qu'ils veulent. Mais moi j'en ai vu un hier ou avant-hier. Deuxième tour, Bardella, Mélenchon. Mélenchon fait 28,5%. Donc je veux bien que le sondage se trompe, même de 20% ou de 30%, mais on est assuré, Mélenchon, et ça il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, est devenu le plus grand repoussoir de la vie politique. Et en cas de deuxième tour, donc moi, parce que mon objectif, c'est d'éviter Bardella et l'imposture qu'on évoquait tout à l'heure avec Flora, il faut, dans une première étape, qu'il n'y ait pas Mélenchon face à lui. Pour qu'il n'y ait pas Mélenchon, il faut qu'il y ait une gauche républicaine qui soit crédible, solide, qui soit rassemblée et qui puisse se hisser au deuxième tour de l'élection présidentielle en ayant en tête quand même, et ça il faut aussi, je vous parlais de compromis tout à l'heure, que celui qui sera au deuxième tour face à Bardella, eh bien, il ne gagnera que si le camp d'en face vote pour lui.
Ouais,
c'est-à-dire que la droite républicaine vote pour la gauche républicaine, ou si c'est l'inverse, que la gauche républicaine vote pour la droite républicaine. C'est-à-dire que les gens comprennent que on va devoir se mettre d'accord à un moment donné dans l'intérêt du pays.
Ça recrée le macronisme ou le en même temps.
Et non, arriver avec ses convictions et construire
les Français.
Non mais attendez, moi je vous ai dit tout à l'heure, la politique c'est l'art du
Français. On sent bien qu'aujourd'hui tout sauf le RN ça les fatigue.
Je suis bien d'accord. C'est pour ça que moi j'ai pas le slogan que je mets sur la table. C'est répondre au sujet de relégation, de ressentiment, de mépris qui font qu'une partie de nos concitoyens votent pour le Rassemblement National en disant à tous les autres partis politiques, je vote pour eux parce que vous êtes nuls, parce que vous répondez pas à mon problème de pouvoir d'achat, parce que c'est un désert médical.
Sur l'immigration, par exemple.
J'ai pas entendu.
Est-ce que vous êtes pour la commission d'enquête proposée par Ciotti sur l'immigration?
Moi, je suis pour aborder la question de l'immigration sans aucun tabou. C'est une politique publique comme les autres qu'on doit juger, évaluer et regarder ce qui marche et regarder ce qui ne marche pas. Ne pas être dans l'angélisme ni le catastrophisme. L'angélisme, c'est quoi? C'est une partie de la gauche qui dit, il y a aucun problème, il n'y a aucun sujet, ouvrons les frontières à tout le monde. Donc ce n'est pas ma position. Et le catastrophisme, c'est la position de Ciotti ou du RN, qui est de dire immigration zéro, parce que ça, c'est pas réaliste et c'est
donc
pas crédible. Moi, je suis pour une immigration. Je vais vous dire. Je suis favorable à. Je vais lâcher un gros mot à gauche qui n'est pas habituel, à une immigration planifiée. C'est-à-dire, on définit ce dont nous avons besoin pour le pays et quelles sont les conditions d'intégration qui peuvent être offertes pour que justement
à la manière canadienne, quoi, c'est ça, un peu à la manière canadienne, avec un permis à points comme le dit Gabriel Attal, avec des critères précis,
avec le fait que on accueille des populations dont on est certain qu'on va pouvoir les former en français, avoir un travail, avoir un logement, parce que si c'est pour justement être dans des conditions de précarité, c'est pas bon pour les personnes qui arrivent sur le territoire et c'est pas bon pour le pays parce qu'il a le sentiment il ne va pas de l'avant. Donc assumer de manière dépassionnée, pas dire que c'est le sujet central. Regardez, encore une fois, dans les enquêtes d'opinion, le sujet premier de préoccupation des Français, c'est la question de la santé. De très, très loin. Ça, c'est quelque chose qui unifie.
Et depuis 15 ans.
Et depuis des années. Or, c'est le sujet dont on parle le moins.
Et puis,
quoi la politique de santé? Attends, comment on réforme le système?
Et il y a le pouvoir d'achat, gagner de l'argent.
Et le pouvoir d'achat.
Alors, gagner de l'argent, tiens, justement, demain, on est le 1er mai.
Oui.
Demain, vous arrivez président de la République. Est-ce que vous touchez au 1er mai pour qu'on puisse, pour que ceux qui veulent travailler puissent travailler ou pas?
Mais je pense pas que ce soit le sujet là aussi central et prioritaire.
Ah bah, vous, non. C'est le pouvoir d'achat.
Vous avez quelques entreprises qui ont des salariés, des fleuristes, des boulangers, parfois
faut
industriels,
les laisser ouvrir,
etc. Enfin, ça fonctionne. Vous trouvez du pain le dimanche.
Oui, oui.
Vous en trouvez dans votre coin et vous achetez du muguet ou des fleurs et vous en trouvez.
Donc, bah, pas tous les fleuristes sont ouverts.
Mais je vous assure, l'argent. Vous savez, l'argent que vous dépensez le 1er mai, vous l'avez pas pour le 2 mai, le 3 mai, le 4 mai. Donc l'idée selon laquelle ça va booster la croissance et en ouvrant le 1er mai, on va avoir plus de consommation.
C'est une substitution. Symbole. Oui, mais c'est aussi
c'est
un
symbole. Et dans les symboles, voilà, dans les symboles, pardon de le dire. Vous savez quoi? Je vais citer Gérald Darmanin. Il paraît qu'hier en Conseil des ministres,
oui,
il a fait une petite sortie sur le sujet.
Oui.
Il a dit, et je reprends ses termes, il a dit, moi, dans sa région, à Tourcoing, dans le Nord, là-bas, il dit, le 1er mai, c'est le Noël au printemps pour les salariés. C'est-à-dire,
ouais,
c'est une journée, allez, c'est la journée historique de repos des travailleurs. Franchement, ils touchent pas.
L'immobilisme est en marche, rien ne l'arrêtera.
Oui, mais monsieur Gage, pardon, mais ça reste quand même pour moi.
Mais qu'est-ce que vous voulez ouvrir le 1er mai? Vous avez envie d'aller à la Fnac?
Tout.
Vous avez envie d'aller chez Carrefour, etc.
Non,
oui, mais ça va servir à quoi? Vous
n'allez
pas plus. Mais il n'y a pas de pouvoir d'achat. Donc le magasin, il est ouvert. Si vous avez le 1er mai, vous n'irez pas le lendemain, le 2 ou le 3.
Et le dimanche aussi, si, parce que c'est là que vous êtes à gauche. Oui, mais vous n'êtes pas toute seule sur ce plateau.
J'ai pas ouvert la bouche voilà.
Moi, j'ai rien dit non plus au jeune Gage, mais là, ça m'intéresse ce qu'il dit. Je suis pour tout ouvrir parce que c'est le problème de la gauche, c'est que vous continuez à penser que les choses sont figées. Si les commerces sont ouverts le 1er mai, s'ils sont ouverts le dimanche, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'activité. Ça fait que, par exemple, le 1er mai, il faut payer un salarié pour ouvrir la boutique, et pour tenir la boutique. On va le payer même triple, je crois, le 1er mai.
À 11 heures.
Bon, avec son salaire, qu'est-ce qu'il va faire lui-même le dimanche quand les magasins seront ouverts?
Voilà, monsieur Consigny, qui devient keynésien. Il devient keynésien. Le pouvoir d'achat soutient la demande intérieure et donc
l'activité crée
la croissance.
Non, mais c'est surtout au niveau du message.
C'est pas de l'argent public en l'occurrence.
C'est surtout au niveau du
message. L'activité crée de l'activité. J'ai le droit de parler ou pas? L'activité crée de l'activité. Donc, je constate que vous êtes en réalité aux fraises à gauche.
Non.
Vous sucrez les fraises comme jamais. Hollande, il est là avec son gros truc de sucre et il en met des tonnes sur ses fraises.
Vous avez
des idées.
Parfois, un raisonnement par l'absurde permet. Donc,
vous avez
ouvrir les magasins toute la nuit.
Ils sont complètement datés.
Il faut ouvrir les magasins toute la nuit.
Oui, 7 jours sur 7.
Regarde, il est dingue.
24
heures
sur 24.
Comme dans tous les grands pays qui tournent et qui sont en train de nous bouffer.
La Fnac ouvert toute la nuit parce qu'à 2h du matin, il faut aller acheter le dernier bouquin de M. Consigny.
La Corée du Sud, la Chine, les États-Unis, les Émirats.
Oui, en fait, les idées, elles sont néolibérales. Les années 80, elles sont pas.
Et nous, on est en train de s'écrouler.
On y reviendra sur le 1er mai tout à l'heure à 11h. Puisque vous êtes en train de nous écouter, est-ce que vous voulez ouvrir, est-ce que vous voulez fermer? On a du mal un peu à comprendre. Rendez-vous tout à l'heure à 11h. Je voudrais juste qu'on termine avec vous, Jérôme Guedj, sur une guerre de deux mers. Vous connaissez la guerre de Master Poulet?
Donc on va parler de poulet là.
C'est Karim Bouamrane qui ne veut pas l'ouverture de Master Poulet à Saint-Ouen. Et qui lui a répondu? Magali Bakayoko, le maire LFI de Saint-Denis, dans une vidéo.
J'ai vu. Ça va? Ils sont... Ils font même de la loco, là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil.
Mais il y en a qui veulent les restaurants étoilés.
Magali.
Ah ben non, pas besoin, ça. Master Poulet, un coup, KO.
Voilà, Bali Bagayoko qui a donc dit Master Poulet, un coup, KO à la direction de Karim Bouamrane, qui lui ne veut pas l'ouverture de Master Poulet. Il dit, c'est de la malbouffe, j'ai déjà suffisamment de fast-food dans ma ville. Vous êtes dans quel camp, alors, finalement?
Moi, je trouve que la position de Karim Bouamrane, qui est un maire qui s'occupe de la manière dont sa ville évolue et qui en plus met sur la table questions en effet de malbouffe, etc. Je trouve pas ça débile de la part d'un maire. Voilà, donc il faut qu'on concilie. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat qui fait que des gens vont dans ces chaînes dans ces chaînes de fast-food très low cost, comme il y a des gens qui vont chez Chine pour s'habiller, mais c'est pas ça va pas dans le bon sens pour l'ensemble du pays. Ces gens-là, ils font venir 100% de leur poulet en dehors de la France. Donc, je trouve qu'il y a quand même une contradiction. J'ai vu
Il y a des grossistes de l'Union européenne
qui eux-mêmes font venir peut-être
au Brésil,
etc.
Vous les bourrez d'antibiotiques.
Donc, on peut pas. À un moment, la politique, c'est de la cohérence. On peut pas. Je voyais Monsieur Coquerel, qui est député LFI de ce territoire, qui soutient ça. Et c'est les mêmes qui signent des propositions de loi à l'Assemblée nationale pour limiter les fermes usines en France d'installation de batteries de poulets pour justement produire plus de poulets en France. Donc, il y a quand même des grosses contradictions. Je trouve qu'un maire, il a raison d'essayer de chercher l'équilibre dans sa ville. Voilà. Après, le sujet est parti dans les tours. Le sujet a été monté en épingle.
C'est une bataille LFI-PS.
C'est la suite d'une bataille LFI-PS parce que tout ça a commencé dès l'instant où LFI a décidé d'en faire un sujet pour fragiliser Karim Bouamrane, qui a été élu et bien réélu maire de Saint-Ouen et qui vient avec un projet qui est clair. Il dit ça doit être la ville pour tout le monde. Donc, des kebabs, des friteries, des fast-food, il y en a dans sa ville, mais il dit je veux pas qu'il y en ait trop, je veux pas qu'il y ait des nuisances, je veux pas, et je préférerais que on puisse manger correctement. Et en face, on a des gens qui disent au nom du pouvoir d'achat, on peut manger n'importe quoi, y compris de la merde. Pardonnez-moi l'expression, je parle pas de ça en particulier. Je sais pas ce que c'en est, mais pardon, on peut pas valoriser tout et n'importe quoi, il y a des enjeux d'équilibre. Voilà.
Merci d'avoir été avec nous, Jérôme Gadge, député socialiste de l'Essonne. Dans un instant, un autre enjeu, la natalité, avec les propositions de Bruno Retailleau, candidat en 2027. Lui aussi, il souhaite, Bruno Retailleau, un revenu familial de 240 euros par mois dès le premier enfant, et on va même jusqu'à 1000 euros pour le troisième. Est-ce que c'est tentant? Est-ce que c'est motivant? L'enfant, c'est une question d'argent. A tout de suite au 32-16, il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Laura Varton Martinez, sophrologue, et Charles Consigny, avocat, avec l'entrepreneur dans la transition écologique, Flora Guebali. On va prendre 10 minutes, un quart d'heure avec vous maintenant pour évoquer les propositions de Bruno Retailleau sur la natalité. Ça, c'est, alors, je vais vous dire, c'est pas les propositions qui vont manquer au fil des semaines. Vous allez voir dans la perspective de l'élection présidentielle. C'est Bruno Retailleau, candidat pour les Républicains. Il veut ce qu'il appelle lutter contre l'hiver démographique. Il veut bousculer l'ordre naturel des choses. S'il arrive à l'Élysée, je veux investir, dit Bruno Retailleau, dans l'avenir de la France. Et pour relancer la natalité, il veut un revenu familial de 240 euros par mois dès le premier enfant. On irait jusqu'à 1000 euros dès le troisième. Un congé naissance jusqu'aux six mois de l'enfant, contre 2 mois actuellement, et ce serait rémunéré 70% du salaire. Alors, est-ce que c'est motivant, oui ou non, Laura?
Ça existe déjà, ça s'appelle les allocations familiales déjà premièrement et
pas dès le premier enfant.
Non, pas dès le premier enfant. Allez, je te l'accorde.
Ça va pas jusqu'à 1000 euros.
Et ça va pas jusqu'à 1000 euros. Mais je pense qu'il y a déjà d'autres, avant de remettre encore de l'argent sur la table, je pense qu'il y a déjà d'autres choses à faire, comme par exemple ne pas avoir peur que son enfant se fasse violer à une pyjama partie chez des copines. Là, on a encore un gars qui a violé, enfin qui vient d'être arrêté pour avoir violé 30 enfants entre 3 et 8 ans, qui avait plus de 300 images pédopornographiques dans son ordinateur, qui avait été condamné il y a un an pour les mêmes faits et qui était dehors. Donc déjà, je parle en tant que maman, si déjà moi j'ai la sécurité de savoir que mes enfants ne vont pas être violés dans le périscolaire ou ne vont pas être violés en allant à une pyjama party.
Oh mais ça n'a aucun rapport avec le fait de faire des enfants.
Bah si, je suis désolée. Pourquoi t'as pas peur que tes gamins ils vivent dans un monde en plein milieu d'une guerre? T'as pas peur que tes gamins ils se fassent violer? T'as pas peur que ta gamine quand elle a 15 ans?
En l'occurrence, l'exemple que tu décris, c'est un père de famille, c'est pas le périscolaire.
J'ai dit pyjama party, donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire. J'ai peut-être envie de pouvoir donner à manger correctement
comment
à mes gamins.
Fais concrètement sans que...
Mais je peux finir une phrase, Charles, s'il te plaît, tout à l'heure déjà.
C'est un débat.
Tu me réponds, tu me coupes pas la parole. C'est le principe du débat. Donc, il y a plein de choses à faire. Je suis désolée.
Vas-y.
Moi, je suis très soucieuse de savoir ce que va dire Charles.
Vas-y, finis.
Donc, si tu veux, une fois que je pense que déjà t'es dans un climat prospère à avoir des enfants en France, si effectivement l'argent ne revient pas propice, et que malheureusement ça ne revient pas, pourquoi pas penser maintenant à remettre de l'argent? Mais avant, nos parents n'avaient pas besoin d'avoir un chèque pour faire des gamins et ça se portait bien. Pourquoi?
Oui, ils en ont fait dans des climats qui étaient autrement moins propices aussi qu'aujourd'hui.
Moi, je pense que nos parents se sentaient plus en sécurité à l'époque qu'ils le sont.
La sécurité qui est primordiale. Flora.
Moi, je suis très curieuse de savoir ce que va dire Charles sur cette proposition de Bruno Retailleau, qui a tout une proposition socialiste dans la mesure où il propose de monter les allocations. Et donc largement de les monter, puisque on parle de 240 euros par mois dès le premier enfant, c'est carrément un revenu universel, 1000 euros par mois pour trois enfants, et d'augmenter le nombre de logements sociaux. Ce que je trouve très intéressant dans cette proposition de Bruno Retailleau, c'est que c'est la preuve que quand on veut faire des mesures incitatives, ben il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est de faire des mesures redistributives. Et donc lui aussi, comme Jordan Bardella, il va finir par demander aux socialistes qu'ils en pensent, parce que sa politique, elle est absolument socialiste et redistributive, puisqu'on parle d'allocations et de logements sociaux. Je pense que la crise principale sur la dénatalité, c'est la crise du logement. On dit que les Français ont perdu entre 15 et 20 mètres carrés, il me semble, dans leurs appartements, surtout les Français des villes. Aujourd'hui, bah, 15 ou 20 mètres carrés, c'est deux chambres d'enfants. Hein, donc, effectivement, où est-ce qu'on loge ces enfants si on veut en avoir, et si on veut en avoir plus quand on vit dans les villes, c'est une vraie question. Donc, pour moi, la bonne solution, c'est surtout de s'attaquer à toutes les grandes crises, crise du logement, crise écologique, puisque c'est la deuxième cause qui fait que les Français ont peur de faire des enfants, plutôt que de proposer des allocations à la petite semaine, qui sont non seulement une mesure qui va coûter très cher, il ne dit pas trop comment on la finance pour le moment, mais en plus une mesure qui est conjoncturelle et pas structurelle, et qui ne va pas permettre à long terme de relancer la démographie.
Charles.
Alors, j'avais des questions à Laura, mais tu vois, ça aurait été intéressant de les poser pendant que tu parlais. Là, si je reviens dessus maintenant, ça n'est pas intéressant, donc je ne vais pas les poser.
En tant revanche, pis, moi, je t'ai posé une question.
Ça aurait permis de rebondir sur ce que tu disais. Mais bon, il ne faut pas être rigide dans les débats politiques.
Je sais pas, tout à l'heure, quand je te coupe pour poser des questions, mais tu me demandes de
non,
me taire.
Non, tu ne coupais pas pour me poser des questions, tu coupais pour intervenir à ma place, c'est pas la même
d'accord.
chose. Donc,
s'agissant du socialiste Retailleau.
Alors, effectivement, au risque de vous surprendre, moi, j'ai toujours été favorable aux allocations familiales. Parce que je pense que c'est un système qui fonctionne, qui effectivement désangoisse les gens à l'idée de faire des enfants, qui les tranquillise et qui les aide, parce que ça coûte très cher de faire des enfants. Et d'ailleurs, tous les jeunes parents aujourd'hui vous le disent, même des jeunes parents aisés, explique que c'est extrêmement coûteux d'avoir des enfants. Il y a la question du logement, mais il y a toutes les autres questions qui viennent s'ajouter à ça. Il y a pas, je ferai pas une liste. Chacun sait tout ce qu'il faut dépenser pour avoir des enfants, pour élever des enfants. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée, à vrai dire, parce que on a quand même un énorme problème en France sur la question de la natalité, et c'est un problème qui se répercute de manière extrêmement coûteuse, par exemple sur la question des retraites. Si vous relancez la natalité, vous financez mieux vos retraites.
Mais tu vois, c'est d'autant plus paradoxal que c'est la gauche qui est revenue sur l'universalité des allocations familiales, et le quotient familial, c'est François Hollande qui l'a remis en question et qui l'a supprimé. Donc ce qui est assez bizarre, là, c'est quelqu'un de droite qui prend des propositions de gauche, là où la gauche les avait supprimées.
Moi, ça me va très bien, parce que je suis pas dogmatique, oui. Et je suis capable de reconnaître quand une mesure est une bonne mesure. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une droite à laquelle participe Charles, qui nous explique toute la journée qu'il faut afuera, tuer toute l'aide publique, tuer tout l'argent public, supprimer l'État, supprimer la sécurité sociale, supprimer les ministères, et tout couper. Et quand on parle de
les choses essentielles.
Oui, mais les choses essentielles, c'est quoi ?
L'école,
la
santé,
c'est exactement ce que finance l'État actuellement.
On a Aurélie au 32-16 qui est en Gironde, avant d'écouter Olivier qui est du côté de la Moselle. On va aller d'ouest en est. Bonjour Aurélie.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de Bruno Retailleau? Je crois que vous êtes jeune maman. Hein
oui, c'est ça, bonjour. En effet, je suis jeune maman, j'ai 29 ans et j'ai deux enfants, dont un qui a 5 jours.
Oh,
et en fait, je trouve que cette proposition, c'est déjà ça, mais c'est pas assez abouti. En fait, selon moi, le vrai problème, je l'ai ressenti en tout cas pour mon aîné, c'est qu'une maman reprend le travail aujourd'hui quand son bébé a 2 mois et demi. Je sais pas si vous vous rendez compte, un enfant à 2 mois et demi, ça fait passer nuit, c'est tout petit, enfin, c'est une vraie déchirure. Et je m'en suis rendu compte, alors que j'ai fait des années d'études et que j'ai un métier que j'aime énormément, que, en fait, j'avais envie d'être mère au foyer. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est presque un gros mot de vouloir être mère au foyer.
Oui, c'est tabou. En fait, vous voudriez un vrai revenu maternel, un salaire de mère au foyer, c'est ça?
Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on a cette image de la femme moderne qui fait absolument tout, qui travaille, qui élève ses enfants, qui court partout, mais ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de dépressions postpartum. C'est qu'on peut pas tout faire. Et le temps que la maman passe avec son enfant, c'est un temps très important. Je m'en rendais pas compte avant d'être maman. Je m'en suis rendu compte après que j'avais pas envie de reprendre mon travail.
C'est une petite fille ou petit garçon?
Bébé.
C'est un petit garçon, il est en train d'allaiter.
Comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Hector.
Bienvenue.
Et en fait, je pense que si on faisait ça, il y aurait beaucoup plus de.
Aurélie, reste avec nous. Je vais voir ce qu'en pensent nos GG. D'accord avec Aurélie ou pas? Un salaire de mère au foyer.
Oui,
un revenu de mère au foyer.
Pas à vie. Parents au foyer. Pas à vie, mais effectivement, je pense que pendant, peut-être les trois premières années de l'enfant, pourquoi pas, je veux dire. Non, mais au final, tu donnes des aides avec la CAF pour payer la nounou, tu payes une partie de la crèche, la personne est en difficulté, ça peut créer des problèmes au niveau de la sécurité sociale. Après, tout est entendable, toutes les solutions sont entendables. Maintenant, on a des outils qui nous permettent de quantifier ce que ça peut nous coûter et ce que ça peut nous rapporter. Donc, pourquoi pas?
Ce serait quoi un SMIC à ce moment-là, Aurélie?
Oui, faudrait pas non plus. Et que ça compte dans la retraite aussi. Enfin, je veux dire, si nous, on vous fait pas d'enfants, il y a personne pour financer les retraites. Et celles qui sont punies de faire des enfants, c'est nous. Enfin, c'est complètement illogique.
Merci Aurélie et félicitations, mais merci d'amener le thème de la dépression postpartum à la discussion au GG, parce qu'elle concerne énormément de femmes et elle concerne aussi énormément d'hommes. Et les chiffres sont absolument effrayants. Je suis jeune maman et maintenant il y a des psys qui viennent vous voir à la maternité pour prévenir les dépressions postpartum et qui viennent vous expliquer. Moi, les chiffres m'ont énormément choquée, tant ils concernent d'hommes et de femmes. Aujourd'hui,
t'es d'accord avec la position d'Aurélie ou pas?
Parce que c'est une vraie déchirure, comme l'a très bien dit Aurélie, de reprendre le travail et de laisser un petit bébé à la maison. Et il y a beaucoup de pères et de mères qui souhaitent prendre plus de temps.
Sur combien de temps alors?
Justement, il y a déjà très bonnes solutions comme dans les pays du nord de l'Europe où vous avez 9 mois à répartir entre les deux parents comme vous le souhaitez. En général, la maman fait les 3 premiers mois, pas comme ça elle se remet de son accouchement, etc. Et le papa fait les 3 mois d'après ou 5 mois et 5 mois. Enfin, on se divise le temps.
C'est un an qu'ils peuvent partager.
Ça, ce serait déjà une excellente solution. Ensuite, il y a un vrai sujet en France, c'est que on ne rémunère pas ce qu'on appelle le travail du soin, le travail du care. Et ça concerne les parents, mais ça concerne aussi les aidants. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui a un cancer. Excusez-moi, ce chiffre, il est effrayant. On n'en parle pas souvent.
Ça coûte beaucoup d'argent, ça, si tu rémunères les aidants.
Et il y a énormément d'actifs qui sont aidants à plein temps, en plus d'un travail à plein temps. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait, dans le cadre de la présidentielle, c'est un très bon échéancier politique, un grand débat sur les travailleurs du care, les travailleurs du soin, qui cumulent un plein temps avec un autre plein temps, souvent un bullshit job en plus, qui sert un peu à rien, surtout à l'ère de l'IA, alors qu'ils pourraient se consacrer aux soins
d'accord
de leur
avec
famille.
Ça, Charles?
Non, faut pas exagérer les travailleurs du care, les travailleurs du soin, on va... Je pense que la France doit être autre chose qu'une sécurité sociale. Hein. On n'est pas un pays voué entièrement à s'occuper comme ça les uns des autres aux frais de la sécurité sociale. Il faut quand même aussi qu'on soit un vrai pays en phase avec des vraies réalités qui sont pas toujours faciles. Donc donner un coup de pouce aux gens pour les déstresser quand ils font des enfants et pour les aider au début, pourquoi pas? Pourquoi pas allonger un petit peu le congé maternité si on veut, le système norvégien, là, why not? Mais se lancer dans un grand système qui existe déjà en réalité, parce que les allocations pour les aidants, ça existe déjà. Ce qui fait que vous avez parfois des gens qui vivent entièrement d'allocations, toute la famille. Faut pas exagérer quand même. Voilà.
Aurélie Biza, Hector, merci d'avoir été avec nous. Aurélie, et on a Olivier qui est là, qui est du côté de la Moselle. Donc, frontalier avec le Luxembourg. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Alors c'est assez drôle parce que ce que vous venez d'expliquer, en fait, ça existe déjà au Luxembourg. Lorsque vous avez un enfant, vous pouvez prendre un congé parental, que ce soit le père ou la mère, si les deux travaillent au Luxembourg, donc de 6 mois à plein temps ou de 1 an à mi-temps. Alors moi, à mon époque, parce que j'ai 53 ans, j'ai deux enfants de 16 et 20 ans, le congé à plein temps, c'était 1 600 € par mois, payé par l'État luxembourgeois, et votre employeur est obligé de vous reprendre. Aujourd'hui, je crois que ça dépend du salaire. Et en ce qui concerne les allocations, on touche à peu près 300 € par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans.
Et c'est pour vous consoler de vivre au Luxembourg.
En France, mais moi je trouve que c'est bien dans le sens où effectivement c'est ce que je disais. Ouais, quand on a démarré dans la vie, on s'installe, on a effectivement ce stress-là. Ben franchement, ça nous a quand même beaucoup aidé. Ma fille aujourd'hui, elle est étudiante en Belgique. Alors comme elle est considérée étudiante à l'étranger de son pays de résidence, elle touche aussi environ 3 600 € tous les 6 mois. Ça c'est découpé.
Donc
en plusieurs
parties, on devrait s'inspirer un peu de ce qui se fait à côté, notamment au Luxembourg. Mon cher Olivier, vous avez conclu la discussion. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va revenir sur le 1er mai. Qui sera ouvert? Qui sera fermé? Charles a fait beaucoup réagir au 32-16 en disant « Moi, je suis pour que tout le monde ouvre, qu'on soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »
Dimanche compris.
Dimanche compris, que ceux qui veulent travailler puissent travailler. Est-ce Absolument. Que vous êtes d'accord avec ça? C'est au 32-16 que ça se passe dans un instant.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.